Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce dimanche 25 juillet. Avec vous, Jean-Noël Ducasse, au sommaire, le journal, les sports, le personnage de la semaine. On ira à la rencontre d'un des membres du groupe Polo et Pan, deux DJ français qui parlent de leur nouvel album Cyclorama. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Les grands titres de ce dimanche 25 juillet, la chef de Nouvelle-Galles du Sud se dit absolument dégoûtée par les manifestations d'hier dans le centre de Sydney, alors que l'État enregistre 141 nouveaux cas de coronavirus et 2 décès, tandis que le Victoria enregistre 11 nouveaux cas de Covid-19. Des dizaines de milliers de personnes en France protestent contre les mesures de confinement et le pass sanitaire. Et puis, première médaille d'or pour les Australiennes aux 4 x 100 mètres nage libre et un nouveau record du monde au JO de Tokyo. La Nouvelle-Galles du Sud a enregistré 141 nouveaux cas de Covid-19 ce dimanche, alors que l'État lutte contre l'augmentation des cas. 38 des cas contagieux circulaient dans la communauté. 2 personnes sont décédées, une femme d'une 60aine d'années du sud-ouest de Sydney et une femme d'une 30aine d'années du centre de Sydney. La chef de New South Wales, Gladys Berejiklian, a remercié les 102 000 personnes qui se sont présentées pour se faire tester, mais elle a critiqué les milliers de personnes qui ont protesté hier contre le verrouillage de Sydney.
In relation to yesterday's protest, can I say how absolutely disgusted I was? It broke my heart. Millions and millions of people across our state are doing the right thing. And it just broke my heart that people had such a disregard for their fellow citizens. I just ask everybody to think about that. Each of those people who protested illegally, I'm sure have loved ones. They're going to go home and risk passing that virus on to their most closest people to them.
On estime que 3500 personnes ont participé à la manifestation non autorisée. Une unité spéciale de la police a été mise en place pour identifier les personnes présentes. Elle analysera les médias sociaux et la vidéosurveillance. Plus de 60 personnes ont été inculpées de diverses infractions, dont 2 hommes dans la 30aine accusés d'avoir prétendument heurter un cheval de la police. Le ministre de la police de l'État de New South Wales, David Elliott, a averti que toute répétition de la manifestation non autorisée de samedi par des abrutis, des bouffheads comme ils les appellent, se heurterait à une présence policière encore plus forte. Pendant ce temps, à Melbourne, une manifestation contre le verrouillage a été brutalement interrompue par la police. La Nouvelle-Galles du Sud aura jusqu'à 50 000 doses supplémentaires de Pfizer, alors que l'État lutte contre le nombre croissant des cas de Covid-19. Le ministre de la Santé, Brad Hazard, a déclaré de manière très inquiétante que des personnes contagieuses circulaient toujours dans la communauté. Et les adultes âgés de 18 ans et plus du Grand Sydney sont également invités à envisager sérieusement le vaccin AstraZeneca à la suite d'un changement d'avis de l'ATAGI, le groupe consultatif australien sur les vaccins. Le médecin chef adjoint, le professeur Michael Kidd, explique les raisons.
The advice from ATAGI is that all individuals aged 18 years and above in Greater Sydney, including adults under 60 years of age, should strongly consider getting vaccinated with any available vaccine, including AstraZeneca. This is on the basis of the increasing risk of COVID-19 and ongoing constraints of supply of the Pfizer vaccine.
Le Victoria a enregistré 11 nouveaux cas locaux de Covid-19. Tous étaient en quarantaine. tout au long de leur période d'infection. Cela survient alors que le médecin en chef, Brett Sutton, déclare que le Victoria est, je cite, sur la bonne voie pour un assouplissement des restrictions prévues mardi prochain, 27 juillet. Mais ce n'est pas quelque chose que les autorités peuvent encore confirmer. Il a indiqué qu'il n'est pas nécessaire que les cas atteignent le chiffre zéro.
There are no absolutes here. We make judgments on all of those aspects, and if there's a case who's in the community, but we can chase down all of their close contacts in a timely way, then that doesn't mean that it puts everything on hold.
Trois nouveaux cas locaux de COVID-19 ont été enregistrés en Australie du Sud ce dimanche. Tous étaient en quarantaine. Le trésorier de la Nouvelle-Galles du Sud a appelé à la réintroduction du programme de subvention salariale JobKeeper. Dominique Perrottet déclare que les travailleurs risquent, je cite, de passer à travers les mailles du filet au milieu d'un verrouillage prolongé. Mais le trésorier fédéral Josh Frydenberg a déclaré sur Sky News que la structure actuelle des paiements de soutien du gouvernement est plus simple et plus souple.
Well, he knows that we have entered into an agreement with the New South Wales government to go 50-50 on business support. That's money that is going to businesses with a turnover of under $50 million, and around 500,000 businesses are eligible for that, and to households, and to families, and to individual workers. And those payments at $600 and $375 are at the level JobKeeper was in the December quarter last year.
Les autorités françaises affirment que plus de 160 000 personnes ont participé aux dernières manifestations à travers la France contre les restrictions du Covid-19. Paris a vu les plus grandes manifestations où certains manifestants se sont heurtés à la police. Ils protestaient contre un projet de loi exigeant que tout le monde ait un pass sanitaire pour entrer dans les restaurants et autres lieux et rendant obligatoire la vaccination contre le Covid-19 pour tous les travailleurs de la santé. Reportage Alexis Bédu pour Radio France Internationale.
Leur colère comme principal étendard. Quel que soit leur âge, leur milieu social, ils ne veulent pas du pass sanitaire. Andy est étudiant. Pour lui, hors de question de se faire vacciner.
Nous n'avons plus le droit de consentir librement à un acte médical. On doit respecter le choix de chacun de se faire vacciner ou de ne pas se faire vacciner. Et je suis atterré de voir à quel point notre constitution est piétinée. Je suis heureux de voir qu'aujourd'hui, nous sommes de plus en plus nombreux à rejoindre la manifestation. Ça prouve que notre démocratie n'est pas encore tout à fait morte.
Muriel est venue manifester pour la première fois de sa vie. Elle espère que son combat dépassera les clivages politiques.
Là, on touche à des sujets d'éthique. De gauche ou de droite, il faut que tout le monde se mette ensemble. Ne pas se laisser confisquer le débat par les extrêmes. Là, on a dépassé un stade. C'est plus possible.
Une manifestation plutôt calme, malgré quelques heurts entre forces de l'ordre et certains manifestants. Les antipass sanitaires promettent un été chaud dans la rue au gouvernement.
Les conditions météo de la mousson provoquent le chaos dans certaines parties de l'Asie. En Inde, au moins 125 personnes sont mortes dans des glissements de terrain et des accidents causés par des pluies torrentielles. Les experts déclarent que l'état du Maharashtra a connu ses plus fortes pluies en juillet depuis plus de 40 ans. Christophe Paget, RFI.
Cela fait 40 ans que l'état du Maharashtra n'avait pas vu autant de pluie au mois de juillet. Des précipitations qui ont fait sortir de son lit le fleuve Vashiti, elle risque d'en faire déborder d'autres. Ce samedi, les sauveteurs fouillaient toujours la boue et les débris provoqués par les inondations et les glissements de terrain. La marine et l'armée de l'air sont intervenues, mais les opérations sont compliquées par les éboulements qui ont coupé plusieurs routes, en particulier l'autoroute entre Bombay et Goa. Les fortes pluies devraient encore tomber pendant plusieurs jours. En Chine aussi, les recherches continuent après que la province du Henan, dans le centre, a reçu l'équivalent d'une année de précipitations en quelques jours. Dans la capitale, Zhengzhou, les secours utilisent des pelleteuses, des bateaux gonflables et des radeaux improvisés pour transporter les sinistrés ou apporter des provisions à ceux qui sont toujours coincés par les eaux en haut des immeubles. Enfin, aux Philippines, hier, les autorités ont évacué 14 000 habitants de la capitale Manille suite à la hausse des eaux du fleuve Marikina provoquée par les pluies du typhon Fabian. Un typhon qui est en train de quitter l'archipel, mais là aussi, ces pluies devraient encore durer plusieurs jours.
Le président français Emmanuel Macron arrive en Polynésie française pour une visite officielle. Précision de Julien Chavannes pour RFI.
L'Élysée le présente comme une nouvelle étape du Tour de France entamé par Emmanuel Macron. À 8 mois de la présidentielle, le chef de l'État vient prendre le pouls du pays à 16 000 km de Paris. Mais derrière les images de cartes postales, Emmanuel Macron va retrouver le boulet du Covid. Les Polynésiens hésitent face au vaccin, plus qu'ailleurs. Seul un tiers de la population a reçu une première dose. C'est presque le double en métropole. Dès sa sortie d'avion, le chef de l'État ira d'ailleurs visiter l'unité Covid du centre hospitalier polynésien avec un message « Vaccinez-vous ». Emmanuel Macron aura l'occasion de s'échapper de la crise sanitaire en se rendant aux îles Marquises. Première fois qu'un président français y posera le pied. Sur le dossier sensible des essais nucléaires, Emmanuel Macron devrait faire des annonces sur l'ouverture des archives et sur les indemnisations des victimes, mais pas d'excuses comme le réclame une partie de la population.
En Afghanistan maintenant, avec un couvre-feu qui a été décrété pour stopper l'avancée des talibans dans le pays. Ce couvre-feu est en vigueur de 22h à 4h du matin. Précision de Sonia Ghezali pour RFI.
L'objectif de ce couvre-feu est d'empêcher les talibans de se déplacer la nuit et de profiter de l'obscurité pour voler des armes, des munitions, s'approvisionner, se cacher dans des lieux stratégiques afin d'avoir l'avantage dans les combats contre les forces gouvernementales. C'est ce que nous a expliqué un membre des services de sécurité afghans. Est-ce que ce couvre-feu peut faire la différence avec les combattants talibans qui semblent avoir l'avantage sur le plan militaire tant ils s'emparent de districts à une vitesse folle? Selon Aman, un ingénieur travaillant dans le Banarchan dans le nord-est du pays, ce couvre-feu est un suffisant. Il a assisté à la capture de 4 districts de cette province frontalière du Tadjikistan avant même que les talibans lancent leurs attaques, raconte-t-il. Les soldats, les policiers et les autorités locales avaient fui leur poste. Aman ne s'explique pas ces désertions qui laissent penser, dit-il, que le gouvernement a dans certains districts laissé le chemin libre aux talibans. Ces derniers contrôlent à ce jour plus de la moitié du territoire, alors que toutes les forces étrangères quitteront l'Afghanistan au 31 août.
En Australie à nouveau, de nouvelles recherches montrent de faibles taux de dons d'organes parmi les communautés de migrants. L'étude de Australian Organ and Tissue Authority montre que seulement 112 des 7,5 millions d'Australiens nés à l'étranger s'étaient inscrits pour être donneurs d'organes l'année dernière en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. Ellen Optum de la Organ and Tissue Authority déclare qu'il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les gens ne s'inscrivent pas pour faire un don, mais souvent ils ne savent tout simplement pas que c'est possible.
Within the Australian community, you know, we love the fact we've got a multicultural community. It's what makes Australia so rich. And I think we all want access to transplantation for ourselves and for the people we love. Now, the only way that's going to work is if we're willing to donate as well. It's particularly important from people from different ethnic groups to be willing to donate.
Un mot de sport à Tokyo, première médaille d'or pour les Australiennes au relais du 4x100 mètres nage libre et avec un nouveau record du monde grâce aux deux sœurs Bronte et Kate Campbell, Meg Harris et Emma McEwen. Le Tunisien Ahmed Afnaoui vient de remporter aussi la médaille d'or pour le 400 mètres nage libre devant l'Australien Jack McLaughlin, qui obtient donc la médaille d'argent, et Kieran Smith, l'Américain, qui prend le bronze. D'autres nouvelles des JO de Tokyo, tout à l'heure, dans le journal des sports. On passe à la météo pour ce dimanche en Australie, à Perth, il fera 19 degrés, Adélaïde 15, Melbourne 13, Hobart 9, Canberra 8 degrés, Sydney 15, Brisbane 21, Cairns 28, Darwin 32, et à Alice Springs, maximale de 21 degrés. Un rappel des grands titres de ce dimanche 25 juillet. La chef de Nouvelle-Galles du Sud se dit absolument dégoûtée par les manifestations d'hier dans le centre de Sydney, alors que l'État enregistre 141 nouveaux cas de coronavirus et 2 décès, tandis que le Victoria enregistre 11 nouveaux cas de Covid-19. Des dizaines de milliers de personnes en France protestent contre les mesures de confinement et le pass sanitaire. Fin du journal et restez donc avec nous.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. Facebook.com sbs.com/sbsfrench.
Ceci est un message du gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud. La Nouvelle-Galles du Sud est actuellement en état d'alerte maximale concernant le coronavirus. Si vous vivez dans le Grand Sydney ou dans les régions de la Central Coast, des Blue Mountains, de Shell Harbour et de Wollongong, vous devez rester chez vous, à moins que vous n'ayez une raison impérieuse de sortir. Il est impératif que vous ne receviez pas de visiteurs chez vous, même si ce sont des membres de votre famille. Les commerces non essentiels doivent rester fermés au public et n'opérer qu'en ligne ou via un système de click and collect s'ils le peuvent. Des restrictions supplémentaires s'appliquent à ceux qui vivent dans les zones de Fairfield, Canterbury-Bankstown et Liverpool. Si vous habitez dans l'un de ces quartiers, vous ne pouvez pas le quitter pour aller travailler, à moins d'y être expressément autorisé. Pour les dernières informations, rendez-vous sur nsw.au.
Les JO, c'est parti depuis Tokyo. Vendredi, le président français Emmanuel Macron était sur place. On l'écoute.
C'est important d'abord parce qu'il faut, y compris dans cette période de pandémie, apprendre à vivre avec le virus et continuer. D'abord pour que l'esprit de l'olympisme, dans cette période où il est si nécessaire, qui est un esprit de coopération, qui de porter des valeurs justement de coopération, continue à se déployer. Ensuite, parce que si nos athlètes en ont besoin, c'est un rendez-vous important dans la vie de nos athlètes. Et donc, nous allons continuer, nous aussi, à aller de l'avant pour préparer notre pays au rendez-vous de 2024, nos athlètes, mais aussi, je dirais, nos enfants, toute la société, et être au rendez-vous de ces valeurs et de l'exigence de la performance.
La première médaille française, le bronze, a été gagnée par le judoka Luca Merezze. On l'écoute.
Je suis très, très fier. Franchement, je sors de ma place de 3, mais j'arrive pas encore à réaliser que j'ai réalisé cet exploit. Depuis que je suis tout petit, je pense à ce moment-là. Le parcours que j'ai eu dans ma vie, c'est ça qui m'a fait aussi que tous les jours, ça me donnait envie de me battre. Et c'est aussi grâce à ça qu'aujourd'hui, je suis là, je me suis battu et j'ai jamais rien lâché. Et franchement, je regrette rien et je suis très content de ma place de 3.
Les précisions de Christophe Diremzian pour RFI sur place à Tokyo.
Avec donc Luca Merezze, ce français vice-champion d'Europe en titre vainqueur face au coréen Won Jin Kim. Won Jin Kim sanctionné 3 fois en prolongation et donc disqualifié. Merezze en a pleuré de joie à l'annonce de cette décision. Lui, le judoka de 25 ans, le petit bonhomme d'1m60, né à Tbilissi en Géorgie, qui a dû fuir la guerre en Ossétie lorsqu'il était adolescent, naturalisé français en 2011 et qui vit donc son premier grand bonheur dans ce judo qu'il pratique depuis l'âge de 6 ans. C'est donc le judo qui débloque bien le compteur français dès la première journée. Mais le Japon a également de quoi se réjouir ce soir, puisque c'est un de ses représentants qui remporte le titre chez cette catégorie des moins de 60 kilos. Naohisa Takato, triple champion du monde, un sacre complété par la médaille d'argent de Funa Stonaki en moins de 48 kilos chez les dames, battue par la Kosovare Distria Krasniki en finale.
Un mot de foot féminin, l'Australie battue par la Suède, 4-2. Il reste encore une chance à se qualifier si les Matildas gagnent contre les États-Unis. Handball et les Français ont bien débuté à Tokyo en battant les Argentins 33-27. Martin Guez, RFI.
Champion olympique en 2008, champion olympique en 2012, médaillé d'argent en 2016 à Rio. Les Bleus qui débutent ces Jeux olympiques par une victoire à Tokyo, talonnés à la mi-temps par des Argentins accrocheurs. Les coéquipiers de Dikemem ont accéléré lors du deuxième acte pour s'imposer avec 6 buts d'avance, 33 à 27. Une entame sérieuse pour le pivot Ludovic Fabregas.
On a fait un match appliqué, on a très bien démarré le match. Derrière, on a eu un petit coup de mou avant la mi-temps, ce qui a permis aux Argentins de revenir dans le match. Et derrière, on a bien redémarré en seconde période. On a creusé le plus gros écart du match. Je crois qu'on était à plus 7 à un moment. Je pense que le groupe avait envie de débuter enfin ces Jeux Olympiques après un mois de préparation assez intense. Et ce soir, le principal est fait. Je pense qu'on a plutôt bien joué, même s'il y a encore des choses forcément à améliorer. Mais on risque... De faire les petits ajustements au fur et à mesure de la compétition.
Ludovic Fabregas qui était avec Christophe Diremzian. Prochain match lundi, ce sera face au Brésil pour l'équipe de France.
Cyclisme sur route, Richard Carapaz remporte une médaille d'or pour l'Équateur. Olivier Pron, RFI.
Médaille d'or pour l'Équateur, oui, c'est exactement ça. C'est une course dantesque, animée d'un bout à l'autre avec 50 derniers kilomètres. Florent, absolument à bout de souffle. On s'y attendait, on savait que le vainqueur serait un de ceux qui s'étaient illustrés il y a encore 8 jours sur le Tour de France. Pour les autres, 234 kilomètres. Très relevé ce parcours, ça allait être très compliqué. Tous ceux qui se sont illustrés, notamment le Burkinabé, Paul Domon, le Sud-Africain, Nicolas Dlamini, finalement sont rentrés dans le rang et ce sont les Cadors qui se sont bagarrés jusqu'à la fin. Et c'est bien l'Équatorien Richard Carapaz, troisième du dernier Tour de France, qui est parti tout seul à 7 kilomètres. Il a mis 40 secondes à ses poursuivants, et quel poursuivant. Deuxième, Wout van Aert, le Belge. Il a remporté 3 des 11 dernières étapes du Tour. Et puis troisième, médaille de bronze, c'est Tadej Pogacar, le double vainqueur du Tour de France en titre. C'est vous dire le niveau de cette course et le niveau de ce podium. Et dans tout cela, la France n'a pas été si loin. Belle course d'équipe, et David Godu prend la 7e place. Ça aurait pu être un podium, ça ne l'a pas été. Ce sera pour la prochaine fois, mais formidable course en ligne ici aux Jeux Olympiques de Tokyo. Et donc l'Équatorien Carapaz qui est récompensé avec la médaille d'or.
Et c'est la liesse en Équateur, comme nous l'explique Eric Sanson, sur place pour RFI.
Vive l'Équateur ! Vive le Carchi !
Vive l'Équateur, vive la province du Carchi, vive Toulcan. Malgré la différence d'horaire, le froid et la pluie typiques de cette province frontalière avec la Colombie, la population n'a pas manqué l'occasion de fêter la médaille d'or du fils du pays. Dans cette province montagneuse, le cyclisme est presque une religion, le sport de prédilection juste derrière le football. À l'aube, la mairie de Toulcan n'a pas hésité à diffuser sur Facebook Live la joie d'habitants anonymes dans les rues de la ville.
Près de 1000 personnes se sont donné rendez-vous à l'aube dans les rues de la capitale équatorienne du cyclisme. Nous sommes sur l'une des avenues principales de l'entrée sud de Toulcan et les gens sont présents.
Comme le montrent les images des caméras de surveillance vidéo de la police, des caravanes se sont formées un peu partout à Toulcan, provoquant des embouteillages comme si l'aube était désormais l'heure de pointe. Les rares habitants ayant préféré dormir plutôt que de suivre en direct l'exploit du fils du pays ont été joyeusement réveillés. Un avant-goût de ce qui attend Richard Carapaz lorsqu'il viendra présenter sa médaille d'or.
Retour à Tokyo et l'atmosphère dans le village, comment ça se passe? Écoutez la pongiste camerounaise Sarah Anfou, qui est née en France d'ailleurs.
On sent que c'est un peu moins la fête. Nous, en tant qu'athlètes, on a très peur du Covid-19. On sait que si malheureusement on l'attrape, il n'y a pas de compétition. Donc on fait extrêmement attention. On ne se mélange pas. On a les tests tous les matins, les tests salivaires pour la délégation du Cameroun. On le fait à 7h. Je vais au restaurant, j'essaie d'y aller à des heures creuses. J'évite tout contact. On voit qu'il n'y a quand même pas d'animation au sein du village. Mais après, on comprend. On s'adapte, mais c'est vrai que ça a une saveur un peu particulière. Mais on fait avec. On a bien conscience que c'est nécessaire. On le savait. Hein, on connaissait tous le contexte. Et à la fois, on est quand même très content d'être là parce qu'on sait que c'était quand même pas gagné au vu du contexte. Et donc à la fois on savoure d'être là et on a hâte d'entrer en compétition et de jouer. Et d'un autre côté, on se dit que c'est quand même dommage de ne pas pouvoir faire ces jeux comme tous les autres jeux et rencontrer d'autres personnes, être dans la fraternité, être dans l'échange. C'est comme ça.
Et maintenant, un premier bilan de la première journée à Tokyo avec Martin Guez pour RFI.
Premier jour des Jeux et première médaille pour la France grâce à l'infatigable Luca Meredze en judo. Le natif de Tbilissi en Géorgie s'est remis de son élimination en demi-finale pour se remobiliser et décrocher le bronze face au sud-coréen Kim Won-jin chez les moins de 60 kilos. Des Français qui avaient démarré par des places d'honneur comme David Godu en cyclisme, 7e de la course en ligne autour du Mont Fuji. Une course remportée par l'équatorien Richard Carapaz qui décroche la 3e médaille de l'histoire de son pays. Le belge Van Aert et le slovène Pogacar montent aussi sur le podium, au pied duquel Océane Muller est restée, la jeune française de 18 ans qui a terminé 5e du tir à la carabine à 10 mètres, toute première épreuve de la journée, qui a permis à la chinoise Qian Yang de décrocher la toute première médaille d'or de ces Jeux Olympiques. Elle repart sans médaille mais aura déjà marqué ses Jeux. La Syrienne Nzaza, 12 ans seulement, est plus jeune athlète à participer aux Jeux Olympiques depuis l'édition de 1968 à Mexico. Ironie du sort, la jeune pongiste a été battue par l'athlète engagée la plus âgée, l'Autrichienne Liu Jia, 39 ans et maman d'un enfant de 10 ans.
Un mot de tennis, pas à Tokyo mais en Suisse, où le Français Hugo Gaston jouera la finale ce dimanche contre le Norvégien Casper Ruud. À Umag, en Croatie, le Français Richard Gasquet jouera contre Alcaraz, l'Espagnol. À Palerme, chez les dames, Elena Rus, la Roumaine, jouera contre Collins, l'Américaine. La Française Océane Dodin est passée à deux doigts d'une qualification pour cette finale. Elle faisait face à une tenace roumaine, Elena Rus. Et un mot de foot, les matchs amicaux de Ligue 1 intersaison. Le Paris Saint-Germain a battu l'US Orléans hier, 1-0. Voilà pour le journal des sports de ce dimanche.
Ceci est un message du gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud. La Nouvelle-Galles du Sud est actuellement en état d'alerte maximale concernant le coronavirus. Si vous vivez dans le Grand Sydney ou dans les régions de la Central Coast, des Blue Mountains, de Shell Harbour et de Wollongong, vous devez rester chez vous, à moins que vous n'ayez une raison impérieuse de sortir. Il est impératif que vous ne receviez pas de visiteurs chez vous, même si ce sont des membres de votre famille. Les commerces non essentiels doivent rester fermés au public et n'opérer qu'en ligne ou via un système de click and collect s'ils le peuvent. Des restrictions supplémentaires s'appliquent à ceux qui vivent dans les zones de Fairfield, Canterbury-Bankstown et Liverpool. Si vous habitez dans l'un de ces quartiers, vous ne pouvez pas le quitter pour aller travailler, à moins d'y être expressément autorisé. Pour les dernières informations, rendez-vous sur nsw.au.
Eh bien, comme chaque dimanche, nous revenons à présent sur un événement marquant de l'actualité et une personnalité qui lui est associée. Pour en parler, nous sommes avec Émile Matasso. Bonjour à vous, Émile.
Bonjour, bonjour à tous.
À la une, le voyage dans l'espace de Jeff Bezos.
Oui, Jeff Bezos, le milliardaire de 57 ans, homme le plus riche du monde. Jeff Bezos, fondateur et principal actionnaire de l'entreprise Amazon, il s'est offert un aller-retour express dans l'espace, un vol habité d'un peu plus de 10 minutes qui l'a amené à 107 kilomètres de la Terre, ce qui correspond à cette altitude où vous pouvez admirer d'un côté le noir infini de l'espace et de l'autre la planète Terre, la courbure de la Terre. Vous êtes suffisamment haut avec les océans, les continents, toutes ces délimitations. Ce projet faramineux de partir dans l'espace, Jeff Bezos l'a réalisé via son entreprise Blue Origin, un vol privé de moins d'un quart d'heure qui ouvre une nouvelle ère, celle d'un tourisme spatial qui permettrait de proposer à des clients ayant beaucoup, beaucoup d'argent, eh bien, d'aller passer comme ça quelques minutes dans l'espace.
Et pour ce vol inaugural, Jeff Bezos n'était pas seul.
Et effectivement, il était accompagné de son frère, mais aussi d'un Néerlandais de 18 ans, Oliver Damen, et de Wally Funk, âgé de 82 ans. Un écart symbolique pour montrer qu'aller dans l'espace, eh bien, il n'y a pas d'âge, pas de limite. Wally Funk est une aviatrice et astronaute qui a travaillé durant toute sa carrière, dans les années 60 notamment, sur différents programmes en lien avec l'agence spatiale américaine, la NASA. Mais à son grand désespoir, Wally Funk, américaine, n'avait jamais volé dans l'espace. Elle qui cumule près de 20 000 heures de vol, eh bien c'est chose faite. Elle était dans la fusée Blue Origin en tant qu'invitée d'honneur de Jeff Bezos. Oliver Damen, lui, n'était pas invité, pas au départ. Le jeune Néerlandais, il a dû payer son billet au prix fort. Il avait été attribué au départ ce billet à quelqu'un d'autre. Jeff Bezos l'avait monnayé 28 millions de dollars. Mais l'heureux élu, dont on ne connaît pas l'identité, s'est désisté au dernier moment. Et c'est donc Oliver Damen qui l'a racheté avec l'appui de son entourage, notamment ses parents qui ont beaucoup d'argent forcément. Alors on ne sait pas exactement combien lui a payé, 28 millions de dollars ou peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Mais derrière cette prouesse technologique, un vol habité dans l'espace, ce rêve fou de Jeff Bezos, il y a bien entendu un plan business, comme on dit. D'autres vols sont prévus d'ici la fin de l'année et la cadence va s'accélérer à partir de 2022. La grande idée de Jeff Bezos étant de proposer à coût de dizaines de millions de dollars une expérience unique dans l'espace à ceux et celles qui peuvent se l'offrir.
Et techniquement, comment s'est passé ce vol ?
Bien, déjà, Jeff Bezos qui a imposé au monde entier un mode de consommation avec Amazon, hein, la vente de produits en ligne, il insiste sur le fait que sa fusée ne pollue pas, aucune émission de gaz carbonique, pas de CO2 émis dans cette période où on parle de réchauffement climatique, l'environnement, la planète à protéger. C'est un message fort sur lequel il cherche à s'appuyer quand les détracteurs d'Amazon mettent en avant eh bien, le bilan carbone de ces produits qu'on achète en ligne sur Internet et qui arrivent, d'on ne sait où, par avion, par bateau, de l'autre bout du monde. Le propulseur de la fusée, appelé New Shepard, il fonctionne avec de l'hydrogène et de l'oxygène liquide. Il a atteint la vitesse phénoménale de Mach 3. Une fois arrivé une centaine de kilomètres au-dessus de la Terre, il s'est séparé, ce propulseur, de la capsule où se trouvaient Jeff Bezos et ses trois acolytes. La capsule a alors pu passer quelques minutes aux confins de l'espace. Ils ont pu admirer avec une grande baie vitrée dans cette capsule donc la courbure de la Terre. Et ensuite, eh bien, d'un côté, le propulseur est revenu à son camp de base dans le Texas. Il s'est posé intact, il pourra donc être réutilisé, et de même la capsule spatiale, eh bien, elle est redescendue sur Terre, ils sont revenus tous les quatre en autonomie à l'aide de parachutes qui ont permis un atterrissage, on va dire, en douceur de cette capsule. Jeff Bezos, à son retour sur Terre, il a eu ces mots: tous ceux qui ont été dans l'espace ont dit que ça les avait changés et qu'ils étaient stupéfaits, abasourdis par la Terre et sa beauté, mais aussi par sa fragilité. Et il a ajouté « Je suis entièrement d'accord ». Il a remercié les employés d'Amazon et chaque consommateur d'Amazon, comme si finalement il nous poussait à continuer d'acheter sur Internet pour financer ses voyages dans l'espace. Bon, la date du 20 juillet, elle n'avait pas été choisie par hasard. Pourquoi est-il parti le 20 juillet ? Le 20 juillet, comme le 20 juillet 1969, quand Neil Armstrong, l'Américain, a marché sur la Lune, premier homme à marcher sur la Lune.
Mais quel est le véritable but de Jeff Bezos ?
Bien, il explique que ce n'est pas une compétition, cette quête de l'espace, de ses voyages habités, mais qu'il veut construire une route vers l'espace pour que, je cite, « nos enfants et petits-enfants puissent construire l'avenir ». Alors, il a fait fortune avec Amazon, créé au milieu des années 90. Au départ, c'était une bibliothèque en ligne. On achetait des lignes des livres en ligne qu'on se faisait livrer. Et puis aujourd'hui, vous pouvez acheter tout et n'importe quoi. Et il reste en tout cas l'actionnaire majoritaire d'Amazon qui a fait des dizaines de milliards de chiffres d'affaires et de bénéfices depuis un an et demi avec la pandémie, hein, quand le monde entier ne pouvait plus accéder aux magasins avec les confinements, les restrictions sanitaires un peu partout. Il n'y avait plus que la vente en ligne. L'homme le plus riche de la planète, hein, Jeff Bezos, il vient de quitter la direction d'Amazon. Il rêve d'autre chose, même si il continue à suivre de près ce qui se passe dans son entreprise. On l'a dit, il est encore l'actionnaire majoritaire. Il se voit en visionnaire, repousser les limites. Jeff Bezos imagine à terme qu'on pourra vivre durablement dans l'espace, un Jules Verne avant l'heure, peut-être dans 50, 100 ans, 200 ans. En tout cas, il veut bâtir des colonies spatiales flottantes avec des gravités artificielles. Et selon lui, un jour, oui, des millions de personnes à terme pourraient travailler et vivre dans l'espace. Cela prendra des décennies, glisse-t-il. C'est une grande ambition, mais les grandes choses sont d'abord petite comme ce premier vol habité à 107 km au-dessus de la Terre. D'autres richissimes hommes d'affaires ont aussi des projets similaires. On terminera par cela. Hein. C'est ainsi que le 11 juillet dernier, avant donc le vol de Jeff Bezos, hein, il a été devancé, le milliardaire britannique Richard Branson est allé lui aussi très très loin, mais à 86 km seulement au-dessus de la Terre, avec son avion Virgin Galactic. Il n'a pas dépassé les 100 km symboliques, et c'est en cela que le vol de Jeff Bezos est considéré comme un vol précurseur.
Voilà pour notre personnalité de la semaine. Vous écoutez Radio SBS, le programme en français.
Ceci est un message du gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud. La Nouvelle-Galles du Sud est actuellement en état d'alerte maximale concernant le coronavirus. Si vous vivez dans le Grand Sydney ou dans les régions de la Central Coast, des Blue Mountains, de Shell Harbour et de Wollongong, vous devez rester chez vous, à moins que vous n'ayez une raison impérieuse de sortir. Il est impératif que vous ne receviez pas de visiteurs chez vous, même si ce sont des membres de votre famille. Les commerces non essentiels doivent rester fermés au public et n'opérer qu'en ligne ou via un système de click and collect s'ils le peuvent. Des restrictions supplémentaires s'appliquent à ceux qui vivent dans les zones de Fairfield, Canterbury-Bankstown et Liverpool. Si vous habitez dans l'un de ces quartiers, vous ne pouvez pas le quitter pour aller travailler, à moins d'y être expressément autorisé. Pour les dernières informations, rendez-vous sur nsw.au.
13h45 minutes sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français. Et tout à l'heure, juste après notre personnage de la semaine, c'était Francis Cabrel qui nous interprétait À l'aube revenant.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous le groupe Polo et Pan, en tout cas l'un des deux membres de ce duo, en l'occurrence Polo. Bonjour.
Salut. Ça va?
Très bien, merci. Et merci d'être sur SBS French. Alors, on se parle aujourd'hui parce que vous avez sorti récemment un nouvel album qui s'appelle Cyclorama. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Alors, Cyclorama, c'est donc notre deuxième album. C'est un deuxième album qu'on a composé un peu plus sur la route cette fois-ci. Pour ceux qui ne connaissent pas le premier album, notre groupe Polo & Pan, on fait une musique assez... on fait de la musique électronique avec des inspirations assez world music. On va emprunter beaucoup à la musique d'Amérique du Sud. Il y a de la chanson française, mais aussi de la musique africaine. Il y a un mélange de plein d'inspirations différentes. On faisait une musique très solaire dans le premier album. Et je dirais que sur ce deuxième album, qu'on a composé un peu plus en tournée, donc dans des moments d'inspiration un peu plus divers et variés, il y a plus d'équilibre entre des chansons très solaires et des chansons plus, je dirais, lunaires. chansons comme Tunnel ou Requiem sont plus des chansons nocturnes, alors qu'avant on était vraiment uniquement dans un espace solaire. Donc je pense qu'il est plus équilibré dans ce sens-là, il y a un peu plus de maturité sur cet album avec ça.
D'accord, c'est intéressant que vous disiez que vous avez développé les morceaux en tournée. Vous avez énormément tourné, effectivement, jusqu'à ce que ça soit plus possible nulle part. Mais vu la date de sortie, je pensais que vous y aviez travaillé pendant le confinement, la pandémie. Et je me demandais si, d'une manière ou d'une autre, ça avait influencé votre musique.
Tout à fait, normalement, on a travaillé pendant la pandémie. Mais c'est vrai qu'à la fin de la tournée, on avait peut-être 30 ou 40 maquettes qui nous intéressaient. Et on a pu, justement, dans des bonnes conditions, pu choisir un peu les morceaux qui... Il y avait aussi des morceaux qui étaient plus faciles à travailler avec d'autres parce qu'avec les conditions de la pandémie, forcément, les collaborations étaient un petit peu plus compliquées. Donc, on a choisi ces morceaux qui aussi avançaient le mieux. Ceux qui prenaient forme le plus étaient prêts, étaient mûrs pour être dans l'album. Et je dirais que la pandémie, elle a plus apporté quelque chose sur le concept de l'album puisque Cyclorabern, après le premier album, on parlait plus d'un voyage dans l'espace avec Caravelle. Là, on parle plus d'un voyage dans le temps où on parlait de l'existence humaine, la naissance, le premier morceau, c'est pour la naissance du fils d'Alex qu'on a écrit. Il y a un requiem aussi, il y a le temps de la mort, il y a des morceaux qui sont sur la transcendance. Enfin bon, voilà, c'est un peu le concept narratif, il est venu pendant la pandémie parce qu'on pensait tous un petit peu, forcément on était retirés de nos vies, on pensait un petit peu aussi à la mort, c'était quelque chose d'un peu flippant cette pandémie. Surtout au début, je pense que tout le monde était très angoissé. Et nous, on a pris ce temps-là et on s'est dit, ce concept qui pourrait bien marcher avec ces chansons. Et c'est vrai qu'on aime bien rajouter aussi un narratif sur chaque album, qui est un petit peu de concept, même si évidemment la première intention, c'était de faire de la bonne musique.
Alors, j'ai vu effectivement que vous aviez des dates de prévues en Amérique du Nord et en Europe, pas en Australie, mais en même temps, en ce moment, personne ne peut rentrer en Australie. Ça vous fait plaisir, j'imagine, de retrouver le public, vous qui avez commencé en club.
Là, on mixait encore hier et c'est vrai qu'on continue à être DJ. On a même joué un peu pendant la pandémie, on a réussi à jouer une fois au Mexique, on est parti un peu pour un événement privé et ça nous manquait vraiment. Et là, on est super content de recommencer à mixer et refaire un live, c'est super excitant, mais c'est beaucoup de travail parce qu'il va falloir intégrer tout le deuxième album, recréer une scénographie. Donc ça, on n'est pas encore prêt. Ça, comme vous le disiez, ça sera à partir de décembre avec les États-Unis, ensuite l'Europe. Mais bon, je pense qu'on adorait continuer la tournée le plus loin possible. On adore voyager et venir en Australie, ça serait un rêve. Un jour de pouvoir visiter ce pays, hein, mais c'est vrai que c'est très loin pour les Français, donc j'espère qu'on trouvera le moment. On réussira à intégrer ça à une tournée prochainement.
L'électro française est en tout cas très populaire ici. La scène australienne en la matière n'est pas aussi foisonnante que la scène française, mais il y a quand même quelques artistes qui se démarquent. Est-ce qu'il y en a qui vous plaisent particulièrement, que vous connaissez?
Ouais, enfin moi j'aimais bien une scène d'il y a 5 ans comme Empire of the Sun et Midnight Juggernauts et je les avais vus à Calvin the Rocks ça c'est des groupes qui m'ont vachement inspiré au moment où on créait Paul and Pan au début, voilà, c'était des influences fortes et je trouvais que le son australien était vraiment super bien produit. Je dois dire, Empire of the Sun, c'est vachement impressionnant le niveau de prod qu'ils ont. Donc ouais, on connaît le son australien et on aime ça.
D'accord. Dernière question, rien à voir en fait avec l'interview, mais en faisant mes recherches avant qu'on discute ce soir, j'ai googlé votre nom et je suis tombé sur une page Wikipédia qui parle de votre arrière-grand-père qui, il y a 70 ans, a accidentellement tué quasiment tous les lapins d'Europe en répandant le virus de la myxomatose. C'est dur à vivre comme héritage.
C'est une vieille histoire quand même, mais il faut savoir que donc mon arrière-grand-père, docteur Paul Armand de Lille, il a aussi créé le vaccin contre la tuberculose et qu'en fait cette pandémie, il l'a inoculé à cause d'un collègue australien qui lui a envoyé ce virus. Ça vient d'un collègue australien, c'était un virus qui existait en Australie et il l'a testé sur un lapin dans son parc. Dans sa propriété qui est murée et il pensait buter 10 lapins et finalement il a tué 60% des lapins d'Europe en 3 mois, ce qui lui a valu vraiment la haine des chasseurs mais aussi l'amour des agriculteurs qui ça protégeait forcément les cultures.
D'accord, donc nouvel album bientôt en tournée et déjà de retour derrière les platines, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'autre?
On a des envies forcément, mais de voyager, de découvrir des nouveaux territoires, d'ouvrir des nouveaux territoires. L'Amérique du Sud, par exemple, c'est un territoire auquel on a beaucoup emprunté. On a beaucoup fait de bossa nova, de référence à la musique latine. Donc c'est quelque chose qu'on prévoit. Et je pense que ça va être génial d'aller au Brésil, en Colombie, au Pérou, enfin découvrir tous ces pays. Et voilà, on aimerait aussi faire de la musique avec le cinéma. Je pense que ça c'est un des rêves qu'on aimerait bien réaliser dans le futur. Donc voilà, peut-être faire une musique pour Pixar, pour un film d'animation, ça serait un super quelque chose qui naturellement nous attire, et je pense qu'on pourrait s'éclater en faisant quelque chose comme ça.
Ben merci beaucoup, remettez-vous bien pour cette vaccination donc qui apparemment vous a un petit peu mis sur le carreau. J'espère que ça passera vite. Mes parents m'ont dit que ça a duré 2-3 jours comme une vilaine grippe. Voilà, j'espère que ça durera pas.
Ouais, c'est
pas
ça. Plus. C'est ça. Dans le jour 2, c'est un peu le dur, mais je suis sûr que ça ira mieux demain. Merci beaucoup Grégory pour cette interview, c'était super sympa.
Je vous en prie, merci Paul. À bientôt.
À bientôt.
Et enfin, d'émission, un rappel des grands titres de ce 25 juillet. La Nouvelle-Galles du Sud enregistre 141 nouveaux cas de coronavirus et 2 décès, tandis que le Victoria enregistre 11 nouveaux cas de Covid-19. Des dizaines de milliers de personnes en France protestent contre les mesures de confinement et le pass sanitaire. Et puis à Tokyo, première médaille d'or pour les Australiennes au relais du 4x100 mètres nage libre, avec un nouveau record du monde. Voilà, on arrive à la fin de l'émission. Merci d'être au rendez-vous, comme chaque fois. À très bientôt, à mardi, à 13h.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.